Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Benoît Jordan, conservateur aux archives de Strasbourg. À propos de l'exposition Strasbourg s'amuse, que vous pouvez voir jusqu'au 26 juin 2020 aux archives de Strasbourg. Benoît Jordan, bonjour.
Bonjour.
Alors cette exposition Strasbourg s'amuse regroupe sur 300 mètres carrés 150 objets dédiés aux loisirs, aux jeux et aux lieux dédiés à l'amusement, donc sous forme d'affiches, des photos, des gravures et encore des tableaux d'époque. Alors comment avez-vous collecté ces objets qui vont du Moyen-Âge aux années 50 ?
Nous les avons d'abord trouvés essentiellement dans les fonds des archives de Strasbourg. Non pas que l'administration s'amuse ou qu'elle ait comme mission première de faire se distraire les citoyens de la ville, mais tout simplement parce que l'amusement, c'est d'abord une affaire de police administrative quand il s'agit d'amusement public. Et nous avons également contacté nos collègues des musées, notamment le musée de l'œuvre Notre-Dame, qui nous a prêté deux magnifiques plateau de jeu, ainsi qu'un remarquable petit éléphant, enfin c'est une pièce d'échiquier du Moyen-Âge. Nous avons également bénéficié de l'aide du musée historique.
Tommy Ungerer, le musée Tommy Ungerer vous a prêté également, ce sont des jeux que Tommy Ungerer avait créés ?
Voilà, alors là c'était la troisième participation très importante qu'il faut citer, c'est le musée Tommy Ungerer, donc qui conserve la collection de jouets de Tommy Ungerer. Alors Tommy Ungerer avait ses propres jouets, et puis il en a collecté, il en a collectionné, il en a acheté, on lui en a donné beaucoup. D'ailleurs, assez intéressant de voir que c'est une collection de garçons. Il n'y a pratiquement pas de jeux de filles. Donc c'est plutôt une collection de petits gars qu'on voit avec des autos, avec des camions de pompiers, avec des avions, avec voilà. Ça ne veut pas dire que les filles ne jouent pas, mais ça veut dire que Tommy Ungerer ne jouait pas avec des jeux de filles. Pour autant qu'il y a un genre sur les jouets.
J'osais pas aborder le sujet, je me suis dit on va ouvrir une parenthèse qui va être très longue en parlant du genre des jouets. Et donc évidemment les petites voitures qui correspondent aux petits garçons, aux petites filles et qui ne sont pas forcément bleues, etc. On referme la parenthèse. Alors comment avez-vous, alors ça je voulais demander, quel est l'objet justement ou le document le plus ancien que vous exposez ?
Ça c'est la question piège. Le document le plus ancien, me semble-t-il, c'est une invitation à un concours de tir à Heidelberg. Les villes s'invitaient réciproquement, puis on faisait des concours. On faisait des concours avec des prix pour le meilleur, le deuxième meilleur, le troisième meilleur, etc. Et c'est un document qui est assez intéressant parce que c'est une lettre sur papier d'invitation. Fin 15e siècle, 1486, et il y a une ficelle qui est accrochée après. Et cette ficelle donne la distance entre le pas de tir et la cible. Ben oui, le pied de Heidelberg n'est pas le même qu'à Ulm, qui n'est pas le même qu'à Bâle, qui n'est pas le même qu'à Strasbourg. Comme ça, il n'y a pas de contestation. On a toute une petite série d'invitations. On en a une notamment où ce n'est pas la longueur, la distance qui est indiquée, mais c'est la taille de la cible et le diamètre du carreau d'arbalète qui est donné par un dessin, cette fois-ci imprimé, et qui accompagne la lettre. Alors, c'est du sport. Le sport, c'est du divertissement, de défoulement, de sociabilité aussi, parce que le jeu, finalement, c'est quelque chose qui est très souvent une affaire de sociabilité.
C'était réservé justement à une certaine classe sociale ?
Oh non, tout le monde s'amusait. On a une ordonnance de l'époque de la Réforme qui dit que les jeunes gens, quand il fait chaud, sont priés de ne pas sauter dans l'eau au pont couvert, tout nu et en criant. Il n'est pas dit que ce sont les bourgeois ou les pauvres. Ben voilà, les jeunes, ils vont se baigner. Ben aujourd'hui, on va à la piscine au Vaken ou je ne sais trop où. Mais à l'époque, ben voilà, on se baignait au pont couvert. Et puis, comme aujourd'hui, on saute dans l'eau. On se mesure peut-être à celui qui sautera le plus loin en faisant telle figure ou je ne sais trop quoi.
Est-ce que vous avez des témoignages de la façon dont s'amusaient les jeunes et les jeunes adultes pendant la guerre. Est-ce qu'il y a des documents qui retracent cette période un peu sombre où, évidemment, plus la période est sombre, plus on a besoin de se divertir ?
Alors, s'il y avait des divertissements, c'était, pour la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, c'était des divertissements qui étaient encadrés. C'était d'ailleurs un des slogans de la Hitlerjugend, hein. Tu aimes le théâtre, tu aimes la musique, tu aimes le sport, ben, viens chez nous, hein. On t'offre tout ça. Des divertissements très encadrés. Et puis sinon, je pense que c'était surtout en famille que l'on pouvait jouer aux cartes, voilà, faire des divertissements, cette fois-ci privés. On a relativement peu de témoignages de ce côté-là. La vie quotidienne, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à illustrer.
Est-ce que la rue, justement, à Strasbourg, elle servait de lieu de divertissement ? J'entends le carnaval comme il y a maintenant, ou de grandes manifestations populaires. On a déjà des traces de cette liesse populaire ?
Alors oui, ça on en a pour le Moyen-Âge, pour l'époque moderne. Ben, le Moyen-Âge, par exemple, en 1390, il y a un grand tournoi qui est organisé sur l'actuelle place Breuil. C'est un tournoi, c'est-à-dire ce sont des chevaliers qui vont se mesurer. Mais en même temps, il y a les spectateurs qui sont là, qui regardent, qui comptent les coups. Bon, il y a les saltimbanques, il y a les vendeurs de... Enfin, pas de saucisses chaudes, mais enfin, l'équivalent. Bref, il y a tout ce qui va avec le tournoi. Et puis, il y avait aussi régulièrement petite compétition, par exemple, alors parfois c'était cruel, il y avait par exemple un jeu qui consistait à enfermer dans un enclos des aveugles, chacun avec un bâton et un petit cochon, et les aveugles devaient assommer le cochon. Alors évidemment, comme un aveugle, bah, il ne voit rien, bah, il tapait un peu où il pouvait, et la foule trouvait ça très amusant, n'est-ce pas ? Celui qui réussissait à assommer le cochon, ben, il avait le droit de l'emmener.
Il gagnait le cochon.
Voilà. Il y avait aussi la course des prostituées, c'est-à-dire qu'on prenait les clients des bordels, et puis alors, chacun avec une prostituée sur le dos devait courir, et puis voilà, c'était le premier qui arrivait qui gagnait. Voilà. Au Moyen-Âge, on avait des amusements parfois un peu brutaux, ça, faut avouer, mais pas forcément. Hein. Le jeu d'échecs est quelque chose qui est...
Qui était réservé plutôt à une certaine classe. Hein.
Très certainement, très certainement. On a aussi des festivités liées aux grands événements. Quand le roi Louis XV est à Strasbourg, en octobre 1744, il y a des fêtes populaires. On met un bœuf gras à la broche sur l'actuelle place Gutenberg. Il y a des fontaines de vin, il y a des joutes nautiques. On danse sur les places. Il y a des défilés. Et plus récemment, il y a le carnaval qui renaît de ses cendres. Le carnaval, bon, il s'était éteint avec la Deuxième Guerre mondiale, et puis Germain Müller et quelques-uns...
C'est une tradition allemande vous le disiez, renaît de ses cendres.
Voilà. Germain Müller et ses amis ont considéré en 1956 que Strasbourg était une ville trop austère, et il y a eu le fameux Crocus Morus, c'est-à-dire une espèce de grande poupée de 6 mètres de long qui symbolisait l'hiver. Et bien voilà, on a trimballé ce mannequin par un froid glacial, paraît-il, et on a fini par le brûler... en place publique, et l'année suivante, c'est le carnaval avec le roi Bim Bam qui est apparu. Et le carnaval, donc, qui se perpétue depuis d'année en année, sauf peut-être cette année, évidemment, où les événements médicaux font que le tout lié à la tempête, ben, on a préféré peut-être...
Principe de précaution.
Y sursoir.
Depuis le Moyen-Âge, il y a, on le voit, le jeu de dés, le jeu de marelle, les jeux de plateau, le jeu de loi, le jeu d'échecs, on le disait, qui est plutôt réservé à une certaine classe sociale. Il y a d'autres jeux qui sont parvenus jusqu'à nous dans leur format original, on va dire.
Alors là, vous me posez presque une colle, hein, parce que oui, il y a des jeux qui se perpétuent, jeux de cartes, mais les jeux de cartes ont énormément évolué. Hein, le jeu de tric-trac, chez nous, c'est pratiquement éteint. Il préfigure presque les jeux de casino. Il y a des jeux qui sont apparus. C'est peut-être ça le plus intéressant, c'est de voir l'apparition de nouveaux jeux, les jeux de société. Vous avez le Mikado, ça c'est quelque chose qui est assez récent. Vous avez aussi le Monopoly, vous avez ce genre de choses qui sont des amusements de famille. Et puis certains, comme le Scrabble ou bien alors les lotos, qui sont des petites loteries. ce sont des choses assez récentes, finalement, c'est-à-dire 19e, 20e siècle.
Oui, donc plutôt début du 20e siècle.
Oui, oui.
Et ce
oui.
sont des jeux de famille, on joue à la maison.
Au loto peut-être pas, mais oui, le Monopoly ou le Scrabble, avant qu'il y ait des clubs de Scrabble avec des compétitions que l'on connaît, bah, ce sont des jeux de famille, tout simplement, le dimanche après-midi ou en semaine, le mercredi ou le jeudi, voilà, bah, on peut sortir le plateau, et puis plutôt que d'aller se promener sous la pluie, on joue.
Alors cette exposition, je le disais, 300 mètres carrés dédiée à l'amusement, au divertissement, au jeu, il y a, parce que là c'est passionnant ce que vous racontez, est-ce qu'on va retrouver ce genre d'explication sous les lithographies, les exemples de jeux, de plateaux ou de photographies de théâtre?
Oui, oui, bien sûr. Nos expositions, ce n'est pas seulement une accumulation d'objets, de documents. Ça se veut quand même un peu pédagogique. Donc, il y a plusieurs séquences qui sont présentées. Et nous terminons d'ailleurs avec deux séquences qui présentent le bal des artistes et le bal des pauvres, c'est une spécificité strasbourgeoise pour le XXe siècle. Et puis, en conclusion, à continuer, nous ne faisons qu'effleurer le sujet du carnaval, parce que c'est un sujet qui est trop important, pour ne faire qu'une partie dans cette exposition. Donc, prochainement, il y aura une exposition sur le carnaval, quand, je ne sais pas, mais elle aura lieu.
Benoît Jordan, donc je rappelle, vous êtes conservateur aux archives de Strasbourg. Merci infiniment. Cette exposition court jusqu'au 26 juin. Vous avez le temps d'aller la voir aux archives donc, municipales de Strasbourg. Merci à vous.
Merci.